Bonheur.
Grégory Fèves.
Héloïse Simon.
Une émission qui va vous faire aimer aller au théâtre. Bon, disons-le tout de suite, ce que je vais dire est un peu biaisé. Comment ? Comparer une pièce que j'ai eu la chance de voir à New York au moment des fêtes avec une pièce que j'ai vue au Théâtre Municipal de Grenoble en janvier ? Une pièce qui a été montée pour 2 ans à New York avec une pièce qui est en tournée et passe ses acteurs parisiens dans les villes de province ? Une pièce à 120$ le billet avec une pièce à 38€ le billet ? Bien sûr, c'est injuste de les mettre sur le même plan. Mais dans Sleep No More, une pièce interactive inspirée de Macbeth de Shakespeare, moi, spectateur, je devais suivre les personnages dans un bâtiment 5 étages, 30 pièces peut-être, tout entier transformé en décor. Oui, les suivre. Macbeth va de son banquet au 3e à sa chambre au 4e, d'une forêt au 1er à une rue au 2e, et moi, je le suis, je lui cours après, je le vois à quelques centimètres, tué, pleurer le visage en sang. Alors oui, comparer ça à rester bien sagement assise dans mon fauteuil de théâtre avec des têtes chenues et voir les grosses ficelles de cette pièce historique, ah, lui, il va mourir, elle, il va la tuer à la fin, c'est un peu injuste. Mais dans quel état de joie, d'inquiétude et surtout de peur, et donc d'émotion intense, j'étais quand j'ai vu Macbeth tuer Banco, quand j'ai arrêté de suivre Banco pour tracer les pas de Macbeth. L'un des deux drames, je l'ai vécu, l'autre non. Alors pourquoi ne pas demander ? Je veux participer ici aussi, à moins de 120$ si possible. Suivre des acteurs ici aussi, mais en tout bien tout honneur. Hein, bref, je n'ai pas peur du théâtre et encore moins de mon face-à-face avec Macbeth. Bring it.
Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Grenoble 90.8 pour votre toute nouvelle émission sur le théâtre, Même pas peur, dans laquelle nous n'avons peur de rien, pas même du théâtre contemporain. Héloïse Simon et moi-même vous emmenons faire un tour dans les coulisses et sur les planches. Ça va Héloïse ?
Ça va, merci. Et toi Grégory ?
Très bien.
Alors au programme aujourd'hui, nous passerons par la Lituanie, la Suède, le Danemark, tout ça via Grenoble avec notre invité Thierry Blanc qui vient nous parler de sa mise en scène de La ville d'à côté, un texte du dramaturge lituanien Marius Ivaskevicius. Nous en lirons un extrait bien sûr et nous ferons un tour du côté de l'agenda des pièces à voir par ici. Et en attendant, apprenons tout de suite à prononcer le lituanien.
Théâtrophobe
et théâtrophile.
Bienvenue.
Bonjour Thierry Blanc.
Bonjour.
Bonjour Thierry Blanc.
Bonjour à vous.
Vous allez mettre en scène La ville d'à côté, pièce du dramaturge Marius Ivaskevicius au théâtre 145 du 3 au 7 février. Alors peut-être première question, comment avez-vous rencontré cet auteur, cette pièce ?
Ah ben c'est simple, c'est grâce à Troisième Bureau qui est un comité de lecture de théâtre contemporain à Grenoble et qui, dont je suis membre. Et monsieur Grégory aussi.
Parce que nous ne nous connaissons pas, bien entendu. Hein.
Non, voilà.
Les bureaux sont très grands, c'est
voilà,
pour ça.
Voilà, mais bon. il se trouve qu'il y a eu cette pièce qui est arrivée en finale de sélection des choix pour le festival qu'on représente chaque année, le festival Regard Croisé avec Troisième Bureau. Et il y avait, dont un des finalistes était Marius Ivaskevicius dans la ville d'à côté. Voilà. Et cette pièce m'a d'abord, dans une première lecture, très rebuté, et dans une deuxième lecture, m'a littéralement embarqué. Alors, et la troisième lecture n'a fait que confirmer la deuxième, voilà.
Que confirmer. Alors moi, je vais faire un rapide, très rapide résumé de la pièce. Hein.
Attendez,
alors,
avant, je voudrais juste que vous répétiez Marius Ivaskevicius aussi vite que vous venez de le faire.
Marius Ivaskevicius.
C'est formidable.
C'est pas mal. Bon. Mais à la fin de l'émission, on saura peut-être faire, on verra.
Oui.
Donc, la ville d'à côté, désolé de ce résumé un peu rapide, c'est comme si Casimir et toute l'île des enfants avaient grandi et maintenant avaient une femme, des enfants et des problèmes d'adultes. Alors, la pièce se passe à Malmö, ville à l'extrême sud de la Suède, qui est à 20 km de Copenhague, qui lui fait face, séparée par la mer et un immense pont. Alors je conseille à nos auditeurs de taper ça sur Google Maps, en fait c'est très parlant. 20 km a priori c'est peu qui sépare, mais pour les personnages, on dit Svante même. Le mari Annika, la femme, c'est la distance de la tentation. Tout a l'air mieux à Copenhague ou alors depuis Copenhague, surtout leur petite existence à Malmö. Alors, le rapport avec Casimir, me direz-vous, hein ? C'est peut-être vous, Thierry Blanc, qui allez nous l'expliquer en nous expliquant qui est Carlson, un des personnages de la pièce.
Alors, Carlson, c'est un personnage qui est connu pour les gens des pays de l'Est, et qui est une espèce de petit bonhomme. D'ailleurs, il est suédois, Carlson, au départ. Il est suédois, il a été créé par Astrid Lindgren, qui est une écrivaine qui a créé aussi le personnage de Fifi Brin d'Acier, qu'on connaît plus en France, on connaît plus Fifi que Carlson. Mais pour tous les enfants des pays de l'Est, Carlson est très connu. Il est une espèce de petit personnage qui apparaît dans la tête d'un petit garçon qui s'appelle Svante, Svantensson, exactement comme le personnage de la pièce. Et qui apparaît chaque fois qu'il faut faire une connerie. Soyons clairs, hein, voyons. Il n'y a pas de doute sur ça, parce que dès qu'il s'agit de voler, qu'il s'agit de faire une bêtise, ou l'enfant convoque Carlson. Et Carlson n'apparaît que sous les yeux de l'enfant, Svante. Et il lui dit, bah, tu sais, moi, je peux monter sur les toits. Et Svante lui dit, mais non, mais c'est pas possible. Si, si, on peut le faire, bien sûr, je suis le meilleur grimpeur. À chaque fois, il lui dit qu'il est le meilleur de tout. Je suis le meilleur boulanger. Si on doit voler, par exemple, des croissants dans une boulangerie, il dit, mais je suis le meilleur voleur, moi, je vais te montrer. Ah, mais non, on va pas faire ça. Si, 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 on va faire ça. Et il est absolument gentiment odieux, Carlson. Il est gourmand à n'en savoir que faire. Il est très narcissique. Il est rempli de lui-même. Et voilà, donc c'est un personnage. Et qui disparaît dès que les parents rentrent, normalement. Donc, à chaque fois, les parents de Svante arrivent et lui disent, mais pourquoi, qu'est-ce que c'est que ces bêtises que tu as fait, là? Et il dit, bah, c'est Carlson. Ah bon, et qui c'est Carlson? Bah, il le cherche à chaque fois, il est jamais là. Voilà, donc c'est un peu une espèce de dédouanement, Carlson. C'est le petit diable de pour Tintin et Milou, ça serait le par exemple le petit diable rouge de Milou qui lui parle, ou le petit angelot à côté. Enfin bon, voilà, Carlson, c'est le petit diable rouge, on pourrait dire.
Et Grégory et moi, on voulait savoir si vous aviez regardé les dessins animés.
Oui, j'ai regardé les dessins animés, alors qu'ils étaient en russe pour certains, ou en polonais, me semble-t-il. Donc j'ai eu un peu du mal, mais et puis j'en ai vu aussi en suédois. Mais j'ai surtout lu le roman Carlson sur le toit, qui est donc un roman pour enfants, une petite histoire pour enfants comme ça, qui a été écrite par Astrid Lindgren. Et du coup, ça m'a permis de me donner une espèce de panel de vision de Carlson, parce que la vision des pays de l'Est n'est pas tout à fait la même que la vision suédoise de Carlson. C'est pas la même chose. Je préfère, moi personnellement, la vision des pays de l'Est, notamment la représentation russe de Carlson, qui est beaucoup plus épuré, beaucoup plus étrange que la représentation qu'en font les Suédois. Un petit peu un gros bonhomme avec un gros ventre et qui est toujours jovial. Il est plus inquiétant, le personnage des Russes, enfin, à mon avis.
Et alors, moi, je connais votre attachement à cette pièce que j'ai pu éprouver dès la lecture dont vous parliez tout à l'heure à Troisième Bureau. Mais est-ce que vous pourriez nous donner quelques mots, quelques traces de ce qui fait que vous êtes attaché à cette pièce, et pourquoi vous avez souhaité passer la lecture et aller jusqu'au plateau?
C'est difficile de dire pourquoi on aime un texte, parce que c'est quelque chose de très intime qui se met en branle. Donc, alors je vais répondre. La chose qui m'a happé lors de la deuxième lecture, c'est le parcours de cette femme. C'est le côté aussi déconstruction que pose Marius. Et alors ça, c'est la deuxième chose. Donc c'est Annika, je dirais, pour répondre à votre question. Annika, donc le parcours de ce personnage là la déconstruction de tous les modèles de domination que fait Marius avec cette machine de théâtre infernale: domination économique, domination masculine, domination sociale, enfin bon, tous les modèles de domination qu'il déconstruit. Et la dernière chose, c'est qu'il y a des choses en moi qui ont résonné par rapport à des modèles de femmes que j'ai pu croiser ou connaître. Et qui, voilà, donc là, après, on rentre dans des sphères plus intimes.
Bien évidemment.
Et, mais c'est, je pense quand même à ma mère, voilà, soyons clairs.
D'accord. Voilà.
Mais justement, comme on en est un peu aux images de femmes, alors il y a beaucoup de relations de couple un peu dangereuses ou un peu délétères. Les aspects un peu fantastiques, quasiment de réalisme magique, les jambes qui se collent, enfin, moi je l'ai compris un peu comme ça. Est-ce que ça donne une autre vision à ce couple? Est-ce qu'il y a vraiment des échappées vers le rêve, ou est-ce que c'est quelque chose de simplement inquiétant?
Non, c'est plus que... Il y a plusieurs pôles. En tout cas, c'est des couleurs que j'essaye de donner dans la pièce. C'est qu'il y a il y a de l'inquiétude, mais il y a aussi de l'ouverture, parce que le parcours d'Annika, pour moi, c'est une tentative ratée, mais quand même une tentative d'émancipation vers quelque chose. Alors c'est raté, parce qu'elle se trompe de chemin, et elle se fait remettre à sa place par les hommes, par Lars et par Svante, qui, tous les deux, la tuent, de façon symbolique pour un et de façon concrète pour l'autre. Mais c'est quand même, pour moi, et c'est ça qui m'a vraiment déclenché, c'est ce parcours de femme qui était pour moi une tentative d'émancipation des modèles dominants, et notamment du modèle masculin que j'ai beaucoup pu voir dans mon enfance, un modèle masculin très surplombant, très patriarcal et casse-couille, n'ayons pas peur des mots, mais qui va plus loin que ça parce que qui est très humiliant, très, voilà, sous couvert. J'appelle ça, moi, le tchador invisible. C'est-à-dire, on parle des tchadors, des voiles qu'on aujourd'hui, mais ça devient très, très polémique, ça l'était déjà avant. Mais pour moi, le tchador, le pire, c'est celui qui ne se voit pas et qui est dans les têtes. Et Annika, je dirais, enlève son tchador, essaye d'enlever son tchador en faisant certaines choses. Voilà. Je ne sais pas si c'était clair.
C'est très clair, c'est absolument clair. Et alors, donc on enchaîne sur une question. Alors, on n'est pas obligé d'en parler pendant longtemps, mais la pièce est déconseillée aux moins de 16 ans.
Oh là là, mon Dieu.
Hein, alors voilà, ça, on est d'accord.
Ça, c'était...
D'où ça sort et que pensez-vous de ce choix?
Alors là, j'avoue que je suis un peu embêté pour répondre à cette question parce que c'est ce qu'on m'a demandé au niveau administratif au théâtre. Donc,
ça va être autre chose.
J'ai dit... Comment ça, qu'est-ce qu'on doit... m'a dit, tu sais quand même qu'il y a certaines séquences qui sont un peu... Je dis oui, mais on a aussi la possibilité par la mise en scène d'atténuer certaines choses, de mettre en valeur plus d'autres et d'effacer. Bon, voilà. Du coup, il y a eu une réunion qui a abouti au fait qu'on disait déconseiller au moins de 16 ans. Voilà.
Bon,
moi, j'aurais dit... je travaille avec des adolescents régulièrement, avec des... voilà, et je pense que les adolescents, aujourd'hui...
peuvent absolument voir cette pièce.
Voilà. Et même ce qu'on en a fait n'est pas... voilà. Mais bon, il a fallu se protéger parce que pour diverses raisons.
Oui, ceci dit, ce n'est pas interdit au moins de 16
non,
ans.
Non, c'est déconseillé.
Simplement déconseillé.
En fait, on s'est trompé dans la formulation parce qu'on a été rapidement et on était un peu la tête dans le seau, soyons... On aurait dû mettre à partir de 16 ans parce que déconseiller au moins de 16 ans, ça fait un truc un peu sulfureux.
Oui, ça.
C'est un peu.
On reconfirme ici que c'est à partir de 16 ans et que des spectateurs un peu avertis, un peu renseignés peuvent absolument voir la pièce.
Tout à fait, vous avez raison, puisqu'on a eu une stagiaire au théâtre qui avait 14 ans, c'est son stage de collège qui était avec nous. Et on lui a bien mis toutes les précautions avant qu'elle vienne voir les répétitions. Elle a dit, attention, il faut l'autorisation parentale. Elle a appelé évidemment tout de suite sa mère. Elle t'appelle tout de suite. Voilà. Et tu dis oui. Donc, ça a été bon. Elle est venue et elle a assisté pendant une semaine à toutes les répétitions, aux scènes les plus jolies, entre guillemets, les plus étranges, les plus rigolotes, aux scènes les plus trash. Et quand on lui a dit, voilà, ça va toujours pour toi, elle dit, bah oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le problème?
Voilà.
Et elle revient d'ailleurs le 5 avec sa mère, son frère et peut-être son père.
Donc, et ses cousins. Et voilà.
Il s'en passe des choses inconnues avant une représentation quand même.
Beaucoup,
là, on va
oui.
continuer tout de suite notre discussion avec Thierry Blanc, metteur en scène. Ne bougez pas, levez le rideau.
Début de la représentation dans 10 minutes. Début de la représentation dans 10 minutes.
Alors, coup de projecteur un peu sur vous. La première, c'est demain, hein, au moment de l'enregistrement. Alors, même pas peur?
Non, peur, non. Stressé, je dirais. Stressé parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore là. Donc, là, il va falloir les faire naître et qu'elles arrivent. Donc, mais j'ai confiance. Je ne sais pas pourquoi j'ai confiance. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi, c'est parce qu'il y a eu un travail énorme en amont de la part de tout le monde, et que ce qui nous ralentit aujourd'hui, avant la première, c'est juste des choses techniques. Mais tout le reste est là. Donc j'ai confiance parce que les acteurs sont au rendez-vous. La technique et les créations sonores de Laurent Buisson notamment et de Vincent Guyot au niveau de la lumière sont là. Il suffit juste de mettre tout ça... Voilà, c'est les charnières qui posent des problèmes pour l'instant. Donc je dirais c'est... les jantes sur la voiture, quoi. Même si je suis pas très fan des voitures, mais bon, voilà, je trouve que ça qui me vient à l'instant même, donc voilà.
Bon, c'est quand il reste que les jantes, c'est. Que,
voilà, c'est voilà, que. Hein, voilà, on a tout. Voilà.
Il y a déjà eu des pièces avec des problèmes de moteur et. C'est...
Voilà, le moteur, là,
le
je pense qu'on
là.
L'a, le moteur.
Le moteur,
le moteur on l'a, voilà.
Très bien. Et alors, Thierry, par exemple, donc vous n'avez même pas peur pour cette première de demain, mais vous, au théâtre en général, y a-t-il des choses qui vous font peur?
Les trous.
Sur scène?
Ah oui, en tant que comédien, c'est mon cauchemar.
Et en tant que spectateur?
Oh, l'ennui. L'ennui, ça, c'est mon cauchemar, l'ennui en tant que spectateur. C'est quand on commence à rentrer dans un truc et qu'au bout de 10 minutes, on se dit « Mon Dieu, mais ça va durer au moins 2 heures et je vais me faire chier comme un rat, ça va être terrible. »
Et je suis au milieu, je ne peux pas
sortir. Je ne peux pas sortir, c'est quel cauchemar. Alors bon, voilà, je suis vilain de dire ça, mais en même temps...
c'est une réalité.
C'est une réalité, même pour les comédiens et les metteurs en scène, il faut le dire. Hein.
Voilà, voilà. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose... Et Peter Brook le dit très bien, au théâtre, le diable, c'est l'ennui. Voilà, donc on ne peut plus clair.
Vous êtes comédien, vous avez été, vous êtes toujours comédien, vous êtes lecteur. Qu'est-ce que ça fait de passer à la mise en scène, de changer de rôle un peu ?
Bah, c'est ma deuxième mise en scène et je le vis comme comme une évidence, comme un cheminement évident. Après 25 ans de bons et loyaux services en tant que comédien, j'ai voulu passer en 2010 à la mise en scène dans des concours de circonstances un peu particuliers. Puis voilà, ça. Pour moi, c'est quelque chose. J'adore la porosité dans ma vie, dans le monde en général. J'aime bien ce qui est poreux. Et pour moi, c'est un chemin qui s'est fait de façon évidente. Voilà, une envie qui était là depuis très longtemps et sur laquelle j'avais pas voulu me pencher plus que ça parce que j'étais peut-être pas prêt. Et là, je me sens prêt. Voilà,
Grégory et moi vont préparer, pour vous connaître un peu mieux, un petit portrait chinois, Grégory.
Oui, absolument. Thierry, si vous étiez un auteur, lequel seriez-vous ?
Alors, je vais faire le faillot, Marius Ivaskevicius.
Très bien, on comprend aisément pourquoi.
Voilà.
Si vous étiez un metteur en scène, vous ne pouvez pas répondre vous-même.
Non, ça je ne répondrai certainement pas ça. J'hésiterai, il faut que je choisisse, alors je suis obligé de choisir. J'hésiterai entre Joël Pomera ou Peter Brook. Voilà,
Et pourquoi ces deux noms qui ne sont peut-être pas familiers à tout le monde ?
Peter Brook pour ce que j'appelle l'évocation au théâtre, la force de l'évocation. C'est-à-dire, il n'est jamais dans la démonstration ou la monstration. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs ce mot, mais enfin, il ne montre pas Peter Brook, il évoque toujours. Et pour moi, la force du théâtre, elle est dans l'évocation. C'est-à-dire, des acteurs lèvent des bambous et tout d'un coup, on est dans une forêt. Juste par l'évocation. C'est un peu des trucs shakespeariens, ça. Je vous donne cet exemple-là, mais voilà, il y en a des milliers d'autres chez Peter Brook, ou même chez Ariane Mnouchkine, par exemple, qui elle prend un tissu avec ses acteurs, elle se coupe, puis c'est la mer. Il y a des acteurs qui passent comme ça, derrière, et qui font... et ça peut paraître ridicule comme ça, mais non. Dès que c'est éclairé, c'est sublime. Et tout d'un coup, l'imaginaire fonctionne. C'est la force du cinéma, elle est dans la monstration, et la force du théâtre, elle est dans l'évocation, pour moi. Et chez Pomera, on a ça aussi. Et chez Pomera, ce que j'aime, c'est plutôt les parcours intérieurs des personnages, les choses en creux, en demi-teinte, et qui sont toujours très, très, très tenues à l'intérieur, très quelque chose de très puissant, sous couvert de choses en demi-teinte, comme ça, on a l'impression, et en fait, c'est très puissant dedans. Voilà, c'est donc deux choses.
Ça aide beaucoup. Hein.
Si vous étiez une pièce de théâtre...
Grégory, excusez-moi, mais la ville d'à côté, bien
mais
sûr.
Évidemment, mais là, on comprend aisément pourquoi. Un élément de costume. Une queue de poisson.
Une queue de sirène. Puisqu'il y a la petite sirène de Copenhague est dans la pièce. Alors,
mais écoutez, c'est parfait pour nous. Un élément de décor.
Un élément de décor. Je serais un projecteur. Ah, j'adore la lumière.
C'est beau, ça.
J'adore la lumière. J'adore la lumière.
Et si vous étiez un autre acteur ?
Ah, c'est une bonne question.
Ou autre actrice. Pardon.
Ah, vous avez raison. Juliette Binoche.
Très bien.
Juliette Binoche.
Et si vous étiez un théâtre, dernière question.
Un lieu, vous voulez dire.
Une salle, quoi.
Là, vous me collez, là.
Sans doute parce que vous sentez bien dans tous les théâtres.
Vous me sauvez.
Vous
allez pouvoir vous reprendre.
Alors, puisque nous parlons désormais couramment le lituanien, vous aurez remarqué, nous allons maintenant en écouter. Nous avons choisi de vous passer un court extrait d'un poème symphonique qui s'appelle « La mer », daté de 1901, d'un compositeur lituanien, Čiurlionis, très mal, je prononce très mal là aussi. Hein. À tout de suite pour Même pas peur, la suite avec lecture et agenda sur Campus Grenoble 90.8.
C'était un extrait d'un poème symphonique de Surlionus, Nisnus, intitulé La mer. Nous avons choisi de ne pas passer les 25 minutes qui précèdent parce qu'on voulait parler un peu aussi et nous ne sommes pas sur France Musique. Merci Héloïse pour cette sélection musicale. Je rappelle que la programmation musicale
c'était
est d'Héloïse
romantique.
Simon.
C'était très romantique.
Nous sommes bien de retour sur Campus Grenoble 90.8 pour Même pas peur, la suite. Avec que du beau monde autour de la table, hormis nous-mêmes, il y a bien sûr Thierry Blanc, metteur en scène de La ville d'à côté, et nous allons tout de suite vous faire visiter la Suède et le Danemark sans bouger de chez vous, accompagné d'un homme à hélice rouge. Alors, je rappelle à nos auditeurs que nous ne sommes pas sympas et que par conséquent, nous n'avons pas prévenu notre invité qu'il allait lire un extrait de cette pièce, La ville d'à côté de Marius Ivaskevicius. Yeah. C'est un petit impromptu théâtral.
Alors nous allons contextualiser l'extrait tout de suite. Entre Malmö et Copenhague, avant, il y avait la mer. Grâce au roi de Suède et à la reine du Danemark, maintenant, il y a un pont. Un très long pont. Nous allons écouter cette tête couronnée se féliciter de la construction de cette merveille d'ingénierie et expliquer au peuple pourquoi il est bon que leurs deux pays soient réunis.
Alors je joue la reine du Danemark.
Il faut d'abord demander à Thierry Blanc, parce que c'est quand même une scène un peu à part, donc il faudrait un peu qu'il nous explique pourquoi cette scène est à part par rapport au reste de la pièce.
Elle est à part parce que les personnages de la reine du Danemark et du roi de Suède n'apparaissent que dans cette scène-là. Et c'est une espèce de discours un peu lénifiant et langue de bois de politique. Voilà, on peut, pour être succinct, on va dire.
Oui, alors c'est très bien d'être succinct. Et moi, j'ai l'honneur de faire les didascalies.
Voilà, donc Héloïse fait les didascalies. Oui. Je lis la reine du Danemark, bien
ça
sûr.
Ça te va très bien.
Et Thierry lit le roi de
c'est
Suède.
C'est très bien aussi. La télévision suédoise retransmet la cérémonie d'inauguration du pont reliant Copenhague à la Suède. Sur le pont, les rois des deux États défilent en grande pompe à la rencontre l'un de l'autre.
Nous avons deux yeux.
Nous avons deux oreilles.
Nous avons des cheveux.
Une peau.
Nous avons deux mains.
Nous avons aussi des jambes.
Nous avons un long cou.
Nous avons des dents blanches.
Nous avons aussi des lèvres.
Nous avons des fossettes.
Nous avons une taille.
Nous avons un poids.
Nous réfléchissons.
Nous aussi.
Nous avons un nombril.
Nous avons deux pieds.
Nous avons une belle langue.
Nous avons une bonne prononciation.
Nous avons 20 doigts.
32 dents.
Nous nous ressemblons trop.
Nous sommes une seule tribu.
Maintenant, nous avons un pont.
Nos hommes sont grands.
Nos femmes sont blondes.
Nos Volvos sont rapides.
Notre bière est probablement...
Probablement la meilleure du monde.
C'est probablement vrai.
Nous allons joindre nos yeux.
Nous allons joindre nos oreilles.
Nous allons joindre nos dents.
Nous allons joindre nos tailles.
Nous allons joindre notre poids.
Nous allons joindre nos nombrils.
Et pour cela, pardon, nous avons un pont.
Nous allons remettre un peuple face à un peuple.
Nous allons remettre un homme face à un homme.
Nous allons remettre une fenêtre face à une fenêtre.
Nous allons remettre une vague face à une vague.
Malmö et Lund face au Danemark.
L'Europe face à la Scandinavie.
Nous allons faire fusionner nos cœurs.
Nous allons faire fusionner nos cerveaux.
Nous allons faire fusionner nos mers.
Nous allons faire fusionner nos lèvres.
Les souverains se jettent dans les bras l'un de l'autre et s'embrassent avec ferveur. Ils sont acclamés par les alarmes des bateaux, les sifflements des trains et les klaxons des automobiles. C'était magnifique, hein ? C'était très beau, merci.
On y a cru ?
Ah oui, vous le faisiez
ce rapprochement
bien.
Entre le roi et la reine.
Voilà, heureusement qu'il n'y a pas la vidéo, sinon on pense que vous allez vraiment vous embrasser à la fin. Alors nous allons peut-être passer à un agenda des pièces à voir. Alors quand même, je rappelle, d'abord il y a La ville d'à côté, la pièce de Marius Ivaskevicius, mise en scène de Thierry Blanc. C'est au théâtre 145 du 3 au 7 février. Deuxième idée de sortie, quand on aura vu cette pièce. Déjà.
Quand on aura vu cette pièce, eh bien entre les sorties de ski, puisque ça n'aura échappé à personne, la neige est enfin arrivée. Je vous propose toujours au tricycle d'aller voir Life Experience, mis en scène de Benoît Kopnieff, sur un texte monté par Sébastien Joniez, qui est un recueil de témoignages, et qui jouera les 19, 20 et 21 février au Théâtre de Poche.
À la fin du mois de février, il y a la deuxième partie d'un spectacle puzzle. C'est un peu l'occasion de reparler de ce que le tricycle appelle le fil rouge, qui, comme son nom l'indique, est un fil rouge. Donc, c'est le spectacle Linotte, le 28 février au Théâtre de Poche. C'est la deuxième de trois parties d'un spectacle en trois parties. Du coup, si vous n'avez pas vu la première, ce n'est pas rédhibitoire, c'est pas grave. Vous pouvez toujours y aller et puis vous comprendrez tout. Si vous avez toujours rêvé de savoir comment est le monde des forains et du cabaret, allez-y et vous pouvez y aller en famille.
Alors effectivement, comme les vacances de février sont là, l'activité théâtrale diminue un petit peu. Mais après les vacances de février, tout de suite, à partir du 4 mars à la MC2, Les particules élémentaires de Julien Gosselin, adaptation donc du roman
Alors,
de Michel
pourquoi,
Houellebecq.
Pourquoi cette pièce?
Je Parce sais que c'est formidable. Non, mais c'est formidable. Je demande vraiment. Alors là, si vous avez peur du théâtre, allez-y. Ça dure 4 heures. N'ayez pas peur. Vraiment, faites-moi confiance. Les deux premières heures, vous allez assister à un travail de cœur comme on en voit rarement, c'est-à-dire une cohésion dans le jeu avec des acteurs tous aussi formidables les uns que les autres et qui vous posent les éléments du roman que je n'ai pas lu. Donc oui. Je n'avais aucun élément de comparaison par rapport au roman. Et on se dit vraiment, mon Dieu, qu'est-ce que c'est agréable de voir des gens jouer comme ça, qui jouent pour nous. Et la deuxième partie, ils déploient tout leur talent de mise en scène avec apparemment trois fois rien. Mais c'est ce que disait tout à l'heure Thierry. C'est apparemment trois fois rien, mais c'est tout un monde qui s'ouvre sous vos yeux. Et là, on est embarqué et à la fin, on est transporté à la fois d'une profonde tristesse et en même temps d'une immense joie parce qu'on a vu quelque chose de neuf.
Et est-ce qu'on peut conseiller de lire le roman ou au contraire, se laisser porter?
Écoutez-moi, qui ne l'avais pas lu, je me suis laissé porter sans aucun problème.
Donc non, on peut aller juste se faire plaisir au théâtre.
Oui.
On n'essaiera pas de bousculer son voisin pour sortir là dans ce cas.
Je ne pense pas. Et puis on a un entracte, donc on a la possibilité de partir
vraiment,
effectivement, même si ce conseil que j'ai donné n'est pas le bon.
C'est déconseillé. Hein. On pourra aller le voir et puis on pourra en reparler aussi. Hein. J'espère qu'on en reparlera dans la prochaine émission. On va peut-être conclure là-dessus notre émission. Nous n'avons pas eu peur.
Nous n'avons pas eu peur. Nous avions passé un très bon moment avec Thierry. Nous espérons vous avoir donné envie de pousser la porte du théâtre au moins cette semaine pour voir la ville d'à côté. On remercie Thierry Blanc d'être venu nous parler.
C'est moi qui vous remercie.
C'était un plaisir d'être venu nous parler de lui, de la pièce qu'il monte. Donc un dernier appel pour les amnésiques, La ville d'à côté de Marius Ivasna, mise en scène de Thierry Blanc. C'est au théâtre 145 du 3 au 7 février.
Ah, c'est dommage, on l'avait presque,
la prononciation.
Et puisqu'aujourd'hui nous avons parlé en français d'une pièce lituanienne qui se passe en Suède, nous trouverons pour la prochaine émission sur Campus Grenoble 90.8 une pièce turque qui se passe au Qatar, montée par un Vénézuélien et jouée en langue des signes. Si vous avez des suggestions, c'est bienvenu. À la prochaine, Grégory.
À la prochaine, Héloïse. Allez, ça va bien se passer.